Je prépare généralement mes sujets, mes textes de prédication assez longtemps à l'avance. J'aime pas me retrouver en début de semaine en me demandant sur quoi je vais prêcher. Mais cette semaine, j'avais envie de mettre de côté ce que j'avais prévu pour revenir sur le thème de notre congrès. Sauver pour servir. Parce qu'on a entendu des choses formidables. Qui moi, m'ont stimulé pour le service, m'ont stimulé pour continuer dans ma marche chrétienne. Et puis, si vous avez du temps, je vous encourage vraiment à regarder les prédications du culte de la convention, du culte du dimanche matin, les prédications, parce que c'était une prédication à trois voix, hein, trois fois 10 minutes, sauf celui qui était traduit, du coup ça fait 5 minutes, mais une prédication à trois voix, et c'est très stimulant. Même si vous n'avez pas le temps de regarder tout le culte, je vous invite à y jeter un œil. Mais j'avais envie de reprendre le texte qui a été utilisé pour cette prédication, qui se trouve dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4. Pierre, chapitre 4, on a lu le chapitre, un extrait du chapitre 1 au début, hein, pendant le temps de louange. Et là, on se trouve, on approche de la fin de l'épître, chapitre 4, à partir du verset 7, où il est écrit: la fin de tout s'est approchée, soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Les textes dans les épîtres ne sont pas toujours les plus faciles à aborder, parce qu'on s'adresse directement aux églises, et donc du coup ça peut être assez dense, plus dense que des récits où on se laisse porter par l'histoire. En regardant ce texte attentivement, on voit qu'il y a des formulations qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent. La première chose, c'est les uns les autres. J'ai compté trois fois. Ayez les uns pour les autres un amour fervent. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Et puis il y a aussi que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Hein? Les uns les autres, mettez votre service. Ça ne sent pas bien en français, mais on sent l'idée des uns les autres qui est présente là. Donc trois fois les uns les autres. Et puis, trois fois également de Dieu. La grâce diverse de Dieu. Les paroles, communiquer les paroles de Dieu. Et la force que Dieu accorde. Des choses qui viennent de Dieu. Il y a une mention supplémentaire faite à Dieu, hein, afin que Dieu, quand tout Dieu soit glorifié. Je la laisse de côté, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai mis un peu de couleur, les uns les autres, et de Dieu, qui provient de Dieu. Et du coup, on voit apparaître un texte structuré en deux moitiés. Hein, une première moitié plus les uns les autres, une deuxième moitié qui vient de Dieu. C'est une structure assez classique, dite en chiasme, hein, où il y a une espèce de symétrie, en tout cas un mouvement qui passe par un centre, et c'est le point central qui est le plus important. Et là, le point central, c'est le verset 10. « Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » C'est le verset central de ce passage, le verset qui nous invite au service, et qui nous invite au service selon ce que Dieu nous a donné. Donc en regardant ce point central, on a la structure du passage qui apparaît, et la structure, ça nous aide à comprendre le passage. Une partie sur les uns les autres, une partie sur Dieu, et puis une introduction qui nous explique pourquoi, la motivation de ce pourquoi il faut servir, et puis une conclusion qui nous dit pourquoi, en deux mots, dans quel but servir. Et quelque part, ça annonce mon plan, ça annonce la façon, la structure de notre réflexion. On a une introduction, la fin de tout s'est approchée. Agissons donc en conséquence, dans l'urgence de cette fin de tout, pour que Dieu soit glorifié, que le plus important soit fait. Et agir, eh bien, c'est le service les uns pour les autres, et le service qui vient de Dieu, selon les dons qui viennent de Dieu. Sauver pour servir. Notre fédération n'a pas été très originale, très innovante dans sa formulation. C'est une formulation que vous avez déjà peut-être entendue. Moi, je l'avais déjà entendue. Hein. Nous sommes sauvés pour servir. Déjà, il y a des pièges dans cette formulation, il ne faut pas mal la comprendre. Il ne faut pas servir pour être sauvé, déjà. Le salut, on l'obtient par grâce seule, grâce au sacrifice de Jésus, et non pas parce qu'on pourrait faire de petit ou de grand, de merveilleux, de formidable, pour servir. Donc, ce n'est pas servir pour être sauvé. Il faut faire attention également, sauver pour servir, ça peut laisser entendre que c'est notre raison d'être. Que si on ne sert pas, on n'existe pas. On n'a pas de valeur en dehors du service. Et c'est faux. La Bible nous dit que, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu est venu pour nous sauver. Il est venu nous sauver parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime tels que nous sommes, et non pas pour ce que nous allons faire. Sauver pour servir, c'est nous faire entrer dans ce privilège qui est le service. Parce que le service de Dieu, c'est un privilège. Nous servons, un prédicateur est venu ici dire une fois que nous servons un Dieu qui n'a besoin de rien. Et c'est vrai. Nous servons un Dieu qui est tout-puissant, qui peut faire ce qu'il veut. On le chante dans nos chants, j'espère qu'on le croit également. Il peut faire ce qu'il veut, il n'a pas besoin de nous, et pourtant, il nous donne une place à son service. Il nous donne une part à son œuvre. Il y a là un mystère. Pourquoi Dieu, qui n'a pas besoin de nous, prend le temps de se servir de nous, de nous donner une place? Personnellement, je suis toujours mise en mouvement par la conclusion de cette parabole, la parabole des talents, celle du maître qui s'en va en disant à ses serviteurs de gérer son argent, et quand il revient, il leur demande des comptes. Et à ceux qui ont travaillé pour lui selon ce qu'il attendait, il leur dit: bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton être. Et ça, c'est une parole qui me fait avancer. C'est la parole que j'espère le plus entendre de la part du Seigneur lorsque je le verrai au jugement dernier. Bon et fidèle serviteur. Quelle joie! Quelle joie d'entendre le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a tant aimés, nous dire un jour, bon et fidèle serviteur. Oui, c'est un privilège de pouvoir le servir, j'en suis persuadé. Sauvé pour servir, donc. Je le disais, Pierre place son développement dans un sentiment d'urgence. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est approchée, dit-il. Notre monde court à sa perte. C'est vraiment le sentiment qu'avait Pierre dans la société où il vivait, où les choses étaient inquiétantes, où un empire tout-puissant romain faisait un peu ce qu'il voulait, un peu partout, et dans les provinces éloignées et conquises, on n'avait pas l'impression que c'était pour le bénéfice des gens qui étaient là. On avait vraiment l'impression que le monde se dégradait. Et franchement, aujourd'hui, je crois que c'est pas différent. On est dans un monde un peu fou. Le climat politique en France en ce moment est assez troublé, assez inquiet. Je discutais avec une amie de l'église, Cécilia, qui est au Brésil. Au Brésil, c'est pas la joie non plus politiquement. Ça nous a permis de parler des États-Unis, du Canada, d'autres pays. Non, c'est compliqué. Je ne sais pas qui est optimiste par rapport à là où le monde va. Quand je lis « La fin de tout s'est approchée », j'ai parfois envie de dire que Pierre s'est planté parce que la fin de tout, elle s'est approchée maintenant. On est dans la fin de tout, comme Pierre y était. Nous attendons le retour du Seigneur. Et en ce moment, ça ne fait pas envie. Et l'invitation de Pierre, c'est d'utiliser le mieux possible le temps que nous avons, alors que nous sommes dans cette urgence. J'aime beaucoup inviter, avoir des gens à la maison et leur préparer un bon repas. Le problème, c'est que ce n'est pas facile dans ces cas-là de gérer son temps. Généralement, plusieurs heures avant le repas, j'ai plein de grandes idées sur comment on pourrait faire, et les petits détails, et les petites décorations, et les amuse-bouches, et l'apéritif, etc. Et en rajouter. Et on avance, et on se disperse, et puis l'heure tourne. Bientôt va arriver l'heure où les invités vont arriver. Et là, dans l'urgence, il faut couper. Il faut se concentrer sur ce qui est vraiment important. Peut-être que les petits fours pour l'apéritif, ce n'est pas nécessaire, ce serait plus intéressant d'avoir un plat de résistance à mettre sur la table. Et donc, au fur et à mesure qu'on approche comme ça de l'échéance, il faut faire le tri, se concentrer sur l'essentiel. C'est ce qu'invite à faire Pierre. Se concentrer sur l'essentiel. Là où on est dans les temps où la fin approche. Se concentrer sur l'essentiel, et il leur dit « Soyez sobres et pondérés ». La traduction que j'ai n'est peut-être pas explicite, j'ai pris la Bible du Semeur qui dit « Menez une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire ». Concentrez-vous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le service. C'est le service, mais le service également pour la gloire de Dieu. C'est la conclusion du passage que nous avons lu. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Dans ces temps, dans cette époque, où le temps nous manque pour faire tout ce que nous avons à faire. Au lieu de courir partout, concentrons-nous sur ce qui est vraiment essentiel. Concentrons-nous sur la gloire de Dieu, sur le royaume de Dieu, sur les trésors que nous nous constituons dans le ciel, qui ne peuvent être attaqués par les voleurs, par la rouille, par les mythes. Nous avons peu de temps, concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Et donc, comment le faire ? Par le service. Mais c'est quoi le service ? J'aimerais vous poser la question. Quand vous lisez un passage comme ça, quand on parle de service, à quoi est-ce que vous pensez ? Le service, c'est des choses concrètes. Est-ce que vous pouvez me citer ce qui vous passe par la tête ? Je vous écoute. La prière ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Partage, la charité. Mmh. Le ménage, c'est une bonne chose. Écouter. Écouter, c'est servir. Écouter qui ? Écouter les uns les autres, c'est servir. Mmh. Merci.
Garder les enfants.
C'est concret et brûlant. D'autres idées ?
Décorer,
oui. Embellir, absolument.
Jouer
d'un instrument le dimanche matin, tout à fait. Merci Nelly. Il y a un petit mot au verset 10 qui a attiré mon attention. C'est le mot diverse, la grâce si diverse de Dieu. Et dans le service, on retrouve cette diversité. Tout ce qui a été cité, oui, c'est un moyen de servir. Et on voit là toute la diversité qu'il peut y avoir dans le service et encore. Je suis sûr qu'il y a des timides qui n'ont pas dit ce qu'ils avaient en tête. Le service est d'une très grande diversité. Mais Pierre, dans ce passage, insiste sur deux choses qui sont communes à tous les services, que ce soit les uns pour les autres et que ça vienne de Dieu. Les uns pour les autres, tout d'abord. Il invite à travailler l'amour, que votre amour soit fervent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte que j'ai mis en italique, car l'amour couvre une multitude de péchés, je ne sais pas comment il se trouve dans vos Bibles, c'est une citation. C'est en italique parce que c'est une citation d'un proverbe, Proverbe 10, verset 12, qui dit « La haine allume les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes ». Il ne faut pas mal comprendre cette petite phrase. L'amour couvre une multitude de péchés. Une mauvaise compréhension, c'est de penser que parce que j'aime les autres, Dieu me pardonnera mes péchés. On est amené à aimer les autres, à pardonner pour être comme Dieu nous pardonne lui-même. Mais là, c'est pas ce qui est dit. Cet amour qui couvre une multitude de péchés, c'est l'amour qu'on peut avoir pour les autres et qui nous les fait regarder avec un œil favorable. Un œil favorable qui ne tient pas compte des petites choses, des petits accrochages qu'il peut y avoir entre nous. Si vous voulez apprendre comment aimer, si vous voulez réviser comment aimer, vous pouvez lire 1 Corinthiens 13. Le lire, le relire, et même si vous avez l'impression de le connaître, lisez-le encore.
il y a une telle liste, une telle densité qu'on peut être attrapé par un mot, un verbe sur ce qu'est l'amour. L'amour, patient, plein de bonté. L'amour qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne se met pas en colère. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Ça, ça a été une révélation quand je l'ai redécouvert dans ce passage d'un Corinthiens 13. L'amour qui, quand quelqu'un que j'aime me fait quelque chose qui ne me plaît pas, qu'au lieu de monter sur mes grands chevaux en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a encore fait? Pourquoi il m'a fait ça ?» je me dise « Non, non, on s'aime, j'ai du mal à comprendre. Je ne veux pas soupçonner le mal, j'ai du mal à comprendre. » L'amour qui, en toute occasion, pardonne, fait confiance, espère, persévère. Cet amour, c'est pas un truc qui nous tombe dessus, comme au cinéma, quand le héros voit la belle jeune femme et tombe instantanément amoureux. Cet amour, c'est un amour qui se travaille. Parce que quand on reste longtemps avec d'autres, on finira toujours par trouver des choses sur lesquelles on s'accroche, qui sont difficiles. Et l'amour que Dieu nous appelle à avoir, c'est de dépasser ces accrochages et de le faire avec notre volonté, pas avec un sentiment externe qui nous tombe dessus. Pierre encourage l'amour, l'amour fervent, il encourage aussi l'hospitalité. Deux choses, l'amour, l'hospitalité. Qu'est-ce que l'hospitalité ? C'est la mise en pratique. La mise en pratique de cet amour dans le concret, dans le matériel. Quand j'invite quelqu'un chez moi, c'est moi qui mets la nourriture sur la table, c'est moi qui chauffe la maison, c'est moi qui accueille. Il y a un côté matériel évident, on n'est pas là juste pour s'aimer platoniquement, de façon lointaine, distante, en théorie, mais de façon pratique et matérielle. Matérielle, mais il y a également, avec l'hospitalité, un sacrifice de sa propre intimité. Il ne s'agit pas d'envoyer un chèque pour une cause lointaine dans un pays pauvre. Il s'agit d'accueillir chez moi quelqu'un d'autre. Chez moi, au milieu de mon repère, où j'aime bien vivre comme je l'entends, où je peux rester en bazar, laisser le bazar partout, non, accueillir chez moi, accepter d'être dérangé chez moi. Et ça, nous sommes invités à le faire sans maugré, sans râler parce que certains seraient des pique-assiettes, des profiteurs qui se font inviter partout, sans râler parce que c'est toujours moi qui invite et que personne d'autre n'invite dans cette église. Non, faire ça sans râler. Inviter. L'hospitalité, c'est quelque chose d'important dans la Bible, c'est quelque chose d'important dans l'Évangile. Et Dieu dit qu'il se considère comme redevable de l'hospitalité qu'on donne aux autres. Ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, Dieu dit, c'est pour moi. C'est moi qui te le rendrai. On le voit, par exemple, dans Matthieu 25, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ou dans Hébreux, où on parle de l'hospitalité, et où il est dit, ceux qui ont accueilli ainsi, certains ont accueilli des anges, sans le savoir. C'est cette promesse que Dieu bénit, l'hospitalité. Le service les uns pour les autres, donc, dans l'amour et l'hospitalité. le service également comme venant de Dieu. Et là encore, il y a deux points. Il est très binaire, dichotomique, hein, Pierre. Il y a deux points. La parole et le service. La parole, Pierre nous invite à communiquer les paroles de Dieu. Alors, la parole, où est-ce qu'on la trouve dans le culte ? Dans l'Église, c'est la réponse. On la trouve dans le culte, la prédication, c'est le service de la parole, la présidence, l'animation de la louange. Ceux qui sont avec les enfants apportent également une parole. Ceux qui conduisent les groupes de maison, etc. Il y a une parole comme ça qui est donnée. Mais il y en a d'autres également. Il y a d'autres paroles. Une parole de bienvenue qu'on peut avoir, celui qui passe la porte, une parole d'accueil. Une parole d'encouragement, de remerciement, où nous nous encourageons les uns les autres. C'est super ce que tu as fait. C'est super ce que le Seigneur fait en toi. C'est super comme tu grandis. Je suis encouragé pour ce que tu fais. Merci. Des paroles d'avertissement parfois, d'exhortation. Attention, ce que tu fais là, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Et là, c'est difficile, on a vraiment besoin de donner les paroles qui viennent de Dieu parce que c'est un terrain où on peut rapidement glisser. Il faut faire attention à ce que l'Église ne devienne pas un lieu où on juge, mais un lieu où, parce qu'on a peur d'être jugé, du coup, on porte un masque. Les paroles qui viennent de Dieu, c'est comme celles que Jésus a prononcées à la femme adultère. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Les paroles qu'on prononce, quelles soient les paroles de Dieu? Et ça, c'est un challenge. D'être suffisamment en phase avec Dieu pour que ce qu'on dise vienne de lui. Communiquer les paroles de Dieu, servir avec sa force. On a parlé comme service du ménage. Jésus a donné l'exemple. Jésus, le dernier jour, au dernier repas, a voulu laisser un dernier souvenir à ses disciples, il leur a lavé les pieds. Et culturellement, on ne peut pas dire que ce soit un service qui est très mis en valeur. Je ne suis pas assez fort sur les us et coutumes de l'Antiquité, de la Judée antique. Et je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est le plus dégradant de laver les toilettes à l'église ou de laver les pieds de ses disciples. Je pense que c'est un peu comparable. Jésus dit qu'il n'y a pas de tâche trop basse, mais qu'il faut se servir les uns les autres. À travers le ménage, donc, pour lequel on est sollicité, à travers toutes sortes de services pratiques. La décoration, donner un coup de main à la sono, ranger les tables, ranger quand on invite à faire le grand rangement de printemps, donner un coup de main pour le nouveau bâtiment, il y en aura besoin. Les services à travers l'accueil pour les enfants, on en a parlé il y a un mois. Service important et caché, là-bas, dans les salles, loin de la lumière des projecteurs. Service aussi de ceux qui prennent des responsabilités au conseil, qui acceptent d'y consacrer leur soirée, de recevoir des paquets de mails, d'avoir toujours ces sujets en tête. Et ce service, on est invité à le faire selon la force de Dieu. Et je trouve que cette force, elle s'exprime selon deux pôles. Selon sa force, ne pas en prendre plus que nos forces. Dieu nous a donné des capacités, un corps humain qui a des limites. Nous sommes invités à l'écouter, à respecter, à le respecter, respecter la façon dont il nous a créés et nous inscrire dedans pour notre service. Mais inversement, il nous a donné des forces qu'il faut utiliser. On n'est pas là pour se la couler douce, pour faire ce qui nous plaît, quand il nous plaît. Il nous a donné des forces, il nous a donné un cœur, des motivations pour nous pousser à l'action. Et il faut aussi là les écouter pour le servir, selon nos forces. Ni plus que nos forces, ni moins que nos forces, selon la force qu'il nous donne. Et donc, il regroupe comme ça tous les dons qu'on peut avoir en deux catégories, la parole, le service. Et je crois en fait que ça se mélange. Parce que dans chaque service qu'on fait, on est appelé à avoir une parole, ne serait-ce qu'une parole d'accueil, une parole d'encouragement, de remerciement. Et même quand on a un ministère de la parole, quand on prêche le ministère de la parole par excellence, ne pas oublier que c'est un service, qu'on vient apporter quelque chose à d'autres qui en ont besoin, et l'apporter de façon à ce qu'ils puissent en tirer quelque chose pour leur service. Oui, dans ce texte, en fait, en peu de choses, en peu de mots, Pierre explique bien le service. Motivé par l'urgence sur laquelle nous devons nous concentrer. Service les uns pour les autres. Et service selon ce qui vient de Dieu. Connecté à lui pour sa gloire. Parce que sa gloire s'exprime à travers ce que ses enfants mettent en œuvre pour lui. Peut-être que vous êtes interpellé par cette prédication et que vous voulez vous lancer dans le service. Souvent, une question qui vient, une objection, c'est « mais je ne sais pas quel est mon don ». Je trouve qu'on fait porter trop de choses en français au mot « don ». Quand on parle de don, on parle d'un truc extraordinaire que seuls nous aurions. C'est le don de savoir faire des nœuds avec les queues de cerises, juste avec ma langue, sans les mains. Waouh ! Ça, c'est un don. On cherche quel est le don, la singularité, le truc unique que Dieu aurait placé en nous avant de pouvoir servir. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Ce passage nous dit que tous, nous avons reçu un don, une capacité pour mettre au service. Il faut y aller. Et pour le découvrir, eh bien, je serais prêt à vous proposer de suivre ce que dit Pierre ici. Consacrez-vous à l'amour fervent. Aimez les autres, aimez vos frères et sœurs. Aimez-les pas seulement en théorie, mais aussi en allant vers eux, en pratiquant l'hospitalité. Et je suis persuadé que rapidement, vous verrez concrètement quoi faire, ce que vous avez envie de faire. Suivez cela. C'est le don que Dieu vous a donné pour le service des uns et des autres. Peut-être que vous êtes déjà dans le service et j'aimerais vous encourager, dans ce cas-là, à vraiment le faire selon ce qui vient de Dieu. Le faire selon la force qui vient de Dieu. Ni trop, ne pas vous mettre en danger en faisant trop et en devenant aigri de ce que vous vous mettez dans le rouge. Dieu vous a donné des forces pour votre tâche, il ne vous a pas donné des forces pour cette tâche. C'est qu'il les a donnés à quelqu'un d'autre. Faites-lui confiance. Servez aussi selon toute la force qu'il vous a donnée. pas quand vous en avez envie, mais là où il vous a appelé. Et puis, restez toujours connecté à lui pour pouvoir parler comme il le dirait. Parce que c'est pas un jeu, le service pour le Seigneur. C'est important. Ça fait tellement de bien des uns aux autres, tellement de bien à ceux qui en bénéficient. Soyez connectés à Dieu pour entrer dans ce plan, dans le plan qu'il a de faire du bien au monde à travers ses serviteurs, à travers ceux qu'il a choisis. Nous sommes sauvés pour servir.